je vis l'abbé tressaillir. Il n'y avait rien de plus insidieux que l'accusation de recueillir des reliques d'hérétiques, et Bernard était très habile de mêler les crimes à l'hérésie et le tout à la vie de l'abbaye. Je fus interrompu dans mes réflexions par le scélérier qui criait qu'il n'avait rien à voir avec les autres crimes. Bernard, indulgent, le tranquillisa. Ce n'était pas là pour le moment la question dont on discutait. Il était interrogé pour crime d'hérésie et qu'il ne tenta pas, et ici la voix se fit sévère, de détourner l'attention de son passé d'hérétique en parlant de Séverin ou en cherchant de faire peser des soupçons sur Malachie. Qu'on en revint donc aux lettres.
« Malachie de Hildesheim, dit-il, tourné vers le témoin, vous n'êtes pas ici en tant qu'accusé. Ce matin, vous avez répondu à mes demandes et à ma requête sans essayer de rien cacher. Maintenant, vous répéterez devant ce tribunal ce que vous m'avez dit ce matin, et vous n'aurez rien à craindre. »
« Je répète ce que j'ai dit ce matin, » dit Malachie. Peu après son arrivée en ce lieu, Remigio commença de s'occuper des cuisines et nous avions de fréquents contacts pour des raisons de travail. Moi, en tant que bibliothécaire, je suis chargé de la fermeture nocturne de tout l'édifice et par conséquent des cuisines aussi. Je n'ai aucun motif de cacher que nous devînmes des amis fraternels. Je n'avais aucune raison de nourrir des soupçons contre lui. » Et lui me raconta qu'il avait certains documents de nature secrète, confiés à lui en confession, qui ne devaient pas tomber sous les yeux de profanes et qu'il n'osait pas détenir plus longtemps. Comme j'avais la garde de l'unique lieu du monastère interdit à quiconque, il me demanda de lui conserver ses feuilles de parchemin, loin de tout regard curieux, et je consentis, n'imaginant pas que les documents étaient de nature hérétique, et je ne les lus même pas avant de les placer... dans l'endroit le plus retiré et le plus inaccessible de la bibliothèque. Et depuis lors, j'avais oublié cet incident, jusqu'au moment où ce matin, le seigneur inquisiteur y a fait allusion, et alors je suis allé les rechercher et les lui ai remises. » L'abbé prit la parole courroucé. « Pourquoi ne m'as-tu pas tenu au courant de ton pacte avec le scélérier? La bibliothèque n'est pas une réserve d'affaires appartenant aux moines. »
L'abbé avait mis au clair que l'abbaye n'avait rien à voir avec cette histoire.
« Seigneur, répondit confus Malachie, ce m'avait semblé chose de peu d'importance. J'ai péché sans malice.
« Certes, certes, dit Bernard d'un ton cordial. Nous sommes tous convaincus que le bibliothécaire a agi de bonne foi et la franchise avec laquelle il a collaboré avec ce tribunal en est la preuve. Je prie fraternellement votre magnificence de ne pas lui faire grief de cette ancienne imprudence. Nous croyons à Malachie, et nous lui demandons seulement de nous confirmer à présent, sous serment, que les parchemins que je lui montre sont bien ceux qu'il m'a donnés ce matin, et sont bien ceux que Remigio de Varagine lui remit il y a des années, après son arrivée à l'abbaye. »
Il montrait deux parchemins qu'il avait extraits des feuillets posés sur la table. Malachie les regarda et dit d'une voix ferme, « Je jure sur Dieu le Père Tout-Puissant, sur la très sainte Vierge et sur tous les saints qu'il en est et en a été bien ainsi. »
« Cela me suffit, dit Bernard. Vous pouvez disposer. »
Tandis que Malachie sortait tête basse, peu avant qu'il ne parvint à la porte, on entendit une voix s'élever du groupe des curieux entassés au fond de la salle.
« Toi ? Tu lui cachais les lettres et lui, il te montrait le cul des novices aux cuisines. »
Des éclats de rire fusèrent. Malachie sortit rapidement en jouant des coudes à gauche et à droite. Moi, j'aurais juré que le timbre était celui de Aymaro, mais la phrase avait été criée d'une voix de fausset. L'abbé, le visage cramoisi, hurla de faire silence et menaça de terribles punitions pour tous, intimant aux moines d'évacuer la salle. Bernard souriait lubriquement. Le cardinal Bertrand, d'un autre côté de la salle, se penchait à l'oreille de Jean Dano et lui disait quelque chose à quoi l'autre réagissait en se couvrant la bouche de sa main et en inclinant la tête comme s'il toussait. Guillaume me dit « Le scélérier n'était pas seulement un pêcheur charnel pour son plaisir, mais il faisait aussi le ruffian. Cependant, rien de cela n'importe à Bernard, si ce n'est juste ce qu'il faut pour mettre à bon médiateur impérial en embarras. » Il fut interrompu précisément par Bernard,
qui maintenant s'adressait à lui.
Il m'intéresserait ensuite de savoir de vous, frère Guillaume, de quel feuillet vous parliez ce matin avec Séverin, lorsque le scélérier vous entendit et commit son erreur.
Guillaume soutint son regard.
Il commit une erreur, justement. Nous parlions d'un exemplaire du traité sur l'hydrophobie canine de Ayoub al-Rouaoui, livre admirable de doctrine que certainement vous connaissez de renommée et qui vous aura souvent été de grande utilité. L'hydrophobie, dit Ayoub, se reconnaît d'après 25 signes évidents.
Bernard, qui appartenait à l'ordre des Dominicanes, ne jugea pas opportun d'affronter une nouvelle bataille.
Il s'agissait donc de choses étrangères au cas en question, dit-il rapidement.
Et il poursuivit l'instruction.
Revenons à toi, frère Remigio Minorite, bien plus dangereux qu'un chien hydrophobe. Si frère Guillaume avait ces jours-ci prêté plus d'attention à la bave des hérétiques qu'à celle des chiens, peut-être aurait-il découvert lui aussi quel serpent nichait dans l'abbaye. Revenons à ces lettres. À présent, nous savons sans l'ombre d'un doute qu'elles furent entre tes mains et que tu pris soin de les cacher comme un poison mortel et que tu es allé jusqu'à tuer.
Il arrêta d'un geste une tentative de déni.
Et du meurtre, nous parlerons ensuite. Jusqu'à tuer, disais-je, pour qu'elles ne vinssent jamais en ma possession. Alors, tu reconnais ces feuillets comme t'appartenant ?
Le scélérier ne répondit pas, mais son silence était suffisamment éloquent. Raison pourquoi Bernard poursuivit.
Et que sont ces parchemins ? Deux pages rédigées de la main même de l'hérésiarque Dolcino, peu de jours avant d'être pris, et qu'il confiait à l'un de ses acolytes pour qu'il les portât à d'autres de ses sectateurs encore éparpillés à travers l'Italie. Je pourrais vous lire tout ce qu'elle renferme, et comment Dolcino, redoutant sa fin imminente, confie un message d'espérance à ses frères, dit-il, en Satan. Il les console en annonçant que, si les dates prévues ici ne concordent pas avec celles de ses lettres précédentes, où il avait promis pour l'année 1305 la destruction complète de tous les prêtres par les soins de l'empereur Frédéric, cette destruction ne serait toutefois pas éloignée. Une fois de plus, l'hérésiarque mentait, car plus de 20 ans ont passé depuis ce jour et aucune de ses prédictions néfastes ne s'est réalisée. Cependant, ce n'est pas sur la risible présomption de ses prophéties que nous devons discuter, mais bien sur le fait que Remigio en était le porteur. Peux-tu encore nier, frère hérétique et impénitent, que tu as eu commerce et contubernalité avec la secte des pseudo-apôtres ?
Le scélérier ne pouvait plus nier désormais.
« Seigneur, dit-il, ma jeunesse a été peuplée d'erreurs funestes. Quand j'eus vent de la prédication de Dolcino, déjà séduit comme je l'étais par les erreurs des frères de pauvre vie, je crus en ses paroles. » Et je m'unis à sa bande. Oui, c'est vrai, je fus avec eux dans les régions de Brescia, de Bergame, je fus avec eux à Côme et en Valsesia, avec eux je me réfugiais à la paroi Chauve et en Val de Rassa, et enfin sur le mont Rebello. Mais je ne pris part à aucun méfait, et quand ils commirent saccage et violence, je portais encore en moi l'esprit de mansuétude qui fut le propre des fils de François, et précisément sur le mont Rebello, je dis à Dolcino que je n'avais plus le cœur à participer à leur lutte, et il me donna la permission de m'en aller, car, dit-il, il ne voulait pas de femmelette avec lui, et il me demanda de lui porter ses lettres à Bologne.
« À qui ?» questionna le cardinal Bertrand. « À certains de ses disciples, dont il me semble me rappeler le nom, et, comme je me le rappelle, je vous le dis, Seigneur, se hâta d'assurer Remigio. » Et il prononça certains noms que le cardinal Bertrand devait connaître, parce qu'il sourit d'un air satisfait en faisant un signe d'entente à Bernard.
« Fort bien !»
dit Bernard. Et il prit note de ces noms. Puis il demanda à Remigio
« Et comment se fait-il qu'à présent tu nous livres tes amis ?»«
Ce ne sont pas mes amis, Seigneur. Prouvant soit que les lettres, je ne les remis jamais. Mieux, je fis davantage. Et je le dis maintenant, après avoir tenté de l'oublier pendant tant d'années. » Afin de pouvoir quitter ces lieux sans être pris par l'armée de l'évêque de Versailles qui nous attendait dans la plaine, je parvins à me mettre en contact avec certains d'entre les assiégeants, et, en échange d'un sauf-conduit,
je leur indiquai les bons passages pour aller prendre d'assaut les fortifications de Dolcino, en raison de quoi partie du succès des forces de l'Église fut due à ma collaboration.
Très intéressant. Ce qui nous apprend que non seulement tu fus hérétique, mais aussi que tu fus vil et traître. Ta situation n'en est pas pour autant changée. Comme aujourd'hui, pour te sauver, tu as tenté d'accuser Malaki, qui pourtant t'avait rendu un service, ainsi naguère pour te sauver, tu remis tes compagnons de péché dans les mains de la justice. Mais tu as trahi leur corps, tu n'as pas trahi leurs enseignements, et tu as conservé ces lettres comme des reliques. Et espérant un jour avoir le courage et la possibilité, sans courir de risque, de les remettre, pour que de nouveau t'accueillent avec faveur les pseudo-apôtres.
« Non, Seigneur, non !» disait le célérier, couvert de sueur, les mains tremblantes. « Non, je vous jure que... »«
Un serment !» dit Bernard. « Voilà une autre preuve de ta malice. Tu veux jurer, car tu sais que je sais que les hérétiques vaudois sont prêts à n'importe quelle ruse, et même à la mort, plutôt que de jurer. Et s'ils sont poussés par la peur, ils feignent de jurer et marmonnent de faux serments. Mais moi, je le sais bien, que tu n'es pas de la secte des pauvres de Lyon, maudit renard, et que tu cherches à me convaincre que tu n'es pas ce que tu es, afin que je ne dise pas que tu es ce que tu es. Tu jures alors ? Jure pour être absous, mais sache qu'un seul serment ne me suffit pas. Je peux en exiger 1, 2, 300, tant que j'en voudrais. Je sais pertinemment que vous, les pseudo-apôtres, vous accordez des dispenses à qui jure le faux pour ne point trahir la secte, et ainsi tout serment sera une nouvelle preuve de ta culpabilité.
« Mais alors, que dois-je faire ?» hurla le célérier en tombant à genoux.
« Ne te prosterne pas comme un béguin. Tu ne dois rien faire. Moi seul désormais sais ce qu'il faudra faire, » dit Bernard avec un sourire effrayant. « Toi, tu n'as qu'à avouer. Et tu seras damné et condamné si tu avoues, et tu seras damné et condamné si tu n'avoues pas. » parce que tu seras puni comme parjure. Alors avoue, au moins, pour abréger ce fort douloureux interrogatoire qui trouble nos consciences et notre sens de l'indulgence et de la compassion.
Mais que dois-je avouer ?
2 ordres de péché. Que tu as été de la secte de Dolcino, que tu en as partagé les propositions hérétiques et les coutumes et les offenses à la dignité des évêques et des magistrats citadins, qu'impénitent tu continues à en partager les mensonges et les illusions, fût-ce après la mort de l'hérésiarque et la dispersion de sa secte, même si elle n'est pas tout à fait vaincue et détruite, et que corrompue au plus profond de ton âme par les pratiques que tu as apprises dans la secte immonde, tu es coupable des désordres contre Dieu et les hommes perpétrés dans cette abbaye, pour des raisons qui encore m'échappent, mais qui n'auront pas même besoin d'être complètement éclaircis une fois qu'il sera lumineusement démontré, comme nous sommes en train de le faire, que l'hérésie de ceux qui prêchèrent et prêchent la pauvreté contre les enseignements du Seigneur Pape et de ses bulles ne peut que conduire à des agissements criminels. C'est ce que devront apprendre les fidèles, et cela me suffira.
À vous.
Ce que Bernard voulait fut alors évident. Nullement intéressé à savoir qui avait tué les autres moines, il voulait uniquement démontrer que Remigio partageait d'une certaine façon les idées soutenues par les théologiens de l'empereur. Et après avoir montré le lien entre ces idées, qui étaient aussi celles du chapitre de Pérouse et celles des Fraticelles et des Dolciniens, et avoir montré qu'un seul homme, dans cette abbaye, participait de toutes ces hérésies et avait été l'auteur de nombreux crimes, de cette manière, il porterait un coup vraiment mortel à ses adversaires. Je regardai Guillaume et je compris qu'il avait compris, mais ne pouvait rien y faire, même s'il l'avait prévu. Je regardai l'abbé et je lui vis un air sombre. Il se rendait compte, trop tard, d'avoir été lui aussi attiré dans un piège et que son autorité même de médiateur se délitait, à présent qu'il allait apparaître comme le seigneur d'un lieu où toutes les infamies du siècle s'étaient donné rendez-vous. Quant au célérier, il ne savait plus désormais quel était le crime dont il pouvait encore se disculper. Mais sans doute, il ne fut capable à ce moment-là d'aucun calcul. Le cri qui sortit de sa bouche était le cri de son âme, et en lui et avec lui,
il expulsait des années de longs et secrets remords. Ou encore, après une vie d'incertitude, enthousiasme et déception, lâcheté et trahison, placé devant l'inéluctabilité de sa ruine, il décidait de professer la foi de sa jeunesse, sans plus se demander si elle était juste ou erronée, mais comme pour se démontrer à lui-même qu'il était capable de croire en quelque chose.
« Oui, c'est vrai !»
s'écria-t-il.
« J'ai vécu avec Dolcino, et j'en ai partagé les crimes, les licences. Peut-être étais-je fou, je confondais l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, avec le besoin de liberté et notre haine pour les évêques. C'est vrai, j'ai péché. Mais je suis innocent de ce qui est arrivé à l'abbaye, je le jure !»«
En attendant, nous avons obtenu quelque chose, » dit Bernard. « Tu admets donc avoir pratiqué l'hérésie de Dolcino, de la sorcière Marguerite et de ses pères. Admets-tu avoir été avec eux tandis que près de Trivero, ils pendaient un grand nombre de fidèles de Christ, parmi lesquels un enfant innocent de 10 ans. Et lorsqu'ils pendirent d'autres hommes, en présence de leurs épouses et de leurs parents, parce qu'ils refusaient de s'en remettre à la volonté de ces chiens, et parce que désormais aveuglés par votre fureur et votre orgueil, vous pensiez que personne ne pouvait être sauvé sans appartenir à votre communauté ?
Parle ! Oui, oui, j'ai cru à ceci et fait cela.
Et tu étais présent lorsqu'ils s'emparèrent de plusieurs fidèles des évêques et que certains, ils les firent mourir de faim dans une fosse, et qu'ils coupèrent un bras et une main à une femme grosse, la laissant ensuite accoucher d'un enfant qui mourut aussitôt sans baptême ? Et tu étais avec eux lorsqu'ils rasèrent au sol et livrèrent aux flammes les villages de Mosso, Trivero, Cossilla et Flecchia, et beaucoup d'autres localités de la région de Crèvecœur, et un grand nombre de maisons à Mortigliano et à Corino, et incendièrent l'église de Trivero, souillant d'abord les images saintes, déchaussant la pierre des autels, brisant un bras à la statue de la Vierge, saccageant les calices, les ornements sacrés et les livres, détruisant le clocher, cassant les reins des cloches, s'appropriant tous les vases de la confrérie et les biens du prêtre ?
Oui, oui, j'y étais. Et personne ne savait plus ce qu'il faisait. Nous voulions devancer l'heure du châtiment. Nous étions les avant-gardes de l'empereur, envoyés par le ciel et par le pape saint. Nous devions hâter le moment de la descente de l'ange de Philadelphie. Et alors tous auraient reçu la grâce de l'Esprit Saint. Et l'Église eût été renouvelée. Et après la destruction de tous les pervers, les seuls parfaits auraient régné.